Olivier Lioncamp.
Bonjour. Avec ou sans rendez-vous est consacré aujourd'hui au plan Alzheimer. La maladie d'Alzheimer affecte en France entre 800 000 et 1 million d'entre nous. Il n'est pas une famille qui ne soit touchée par cette maladie qui n'a pas de traitement efficace. Le nombre de patients atteints ne va cesser d'augmenter durant les années à venir, car la fréquence de la maladie augmente avec l'âge. Problème sociétal, problème de santé publique aussi. Le président de la République a voulu que la maladie d'Alzheimer fasse l'objet d'un véritable plan quinquennal, au même titre que son prédécesseur avait fait du cancer une priorité d'action. Où en est-on aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le professeur Joël Ménard. Professeur émérite de santé publique à l'Université Paris-Descartes, Joël Ménard a préparé le plan Alzheimer dès 2007. Il est aujourd'hui le président du conseil scientifique de la Fondation Plan Alzheimer. Joël Ménard, bonjour.
Bonjour.
Alors Joël Ménard, moi je vous connais depuis longtemps et quand je vous vois aujourd'hui président du conseil scientifique de la Fondation Plan Alzheimer, je suis d'abord ravi que vous soyez dans de telles fonctions, mais je m'interroge parce que tout le monde sait que vous êtes une des références dans le domaine de la santé publique, que vous avez beaucoup réfléchi sur ces sujets, aussi bien au plan théorique que pratique. Vous avez été, je le rappelle, directeur général de la santé pendant quelques années, mais de là à vous occuper de la maladie d'Alzheimer, j'ai franchi certes le pas, je crois avoir compris pourquoi vous êtes là, mais finalement rien ne vous prédestinait à occuper ce poste et cette fonction.
Alors absolument rien, moi je n'ai de ma vie jamais pensé réellement à ce qu'était la maladie d'Alzheimer et la surprise que vous montrez, je l'ai totalement partagée au mois de juillet puisque c'est par l'intermédiaire de deux amis, Arnold de Munich qui est le conseiller du président Sarkozy et Pierre Corvol qui dirige le Collège de France, qui est l'administrateur du Collège de France, j'ai eu cette nouvelle qu'on cherchait quelqu'un dont je, avec un profil qui pouvait éventuellement correspondre au mien. Alors comme je ne sais pas moi-même ce que peut être mon profil ou tout au moins comment il est vu, je me suis posé les mêmes questions. Alors simplement ce qui est apparu très rapidement dans une analyse qui a été faite environ 3 semaines, c'est que la demande consistait à faire travailler ensemble les gens, ce qui est toujours quelque chose de difficile,
ouais.
Et dans 3 directions qui étaient la direction scientifique, une maladie qui n'a pas de causes, de mécanismes connus et qui n'a pas de traitement empêchant son évolution mérite qu'on porte une attention énorme à cette maladie, d'autant plus que les chiffres que vous avez rappelés sont très importants, donc le côté scientifique. L'organisation du système de soins, pas seulement médical, mais l'ensemble du système de soins demande à être faite avec énormément de minutie pour donner aux gens et à leurs familles le service qu'ils attendent. Et le troisième volet, qui est le volet le plus important du plan, c'est comment accompagner les patients pendant une maladie qui va durer finalement, au moment où on la détecte actuellement, de 3 à 10 ans, et qui va impliquer toute la famille qui se trouve totalement désorganisée par les troubles du comportement, l'impossibilité de s'adapter à l'environnement qui caractérise la maladie d'Alzheimer. Donc il y avait 3 raisons pour faire ce choix, qui est probablement les 3 raisons pour lesquelles le président de la République a été dans cette direction-là. Et dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'être confronté à ces
trois types de problèmes. Alors justement, on va, si vous permettez, entrer un peu dans votre vie privée. Justement, scientifique, vous avez dit les 3 directions, scientifique. Bon, là, la réponse est relativement facile, mais je crois que vous avez, dans ce domaine, plusieurs casquettes, ou portez plusieurs casquettes.
Ce qui m'a aidé, après, pour essayer de comprendre dans quelle direction allait la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'est le fait que j'avais travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 3 ans et demi à Bâle. dans les années 86-90. Et là, sur le plan de la réflexion sur la maladie d'Alzheimer, au point de vue de ses mécanismes, on peut admettre que la réflexion sur les mécanismes dits cholinergiques de la maladie s'est produite dans les années 75-85.
Cholinergique, c'est l'acétylcholine.
C'est l'acétylcholine. Il y a de
qui est un médiateur.
Neurotransmetteur. Et voilà. L'acétylcholine est celui qui peut être impliqué de manière préférentielle, mais ce n'est pas le seul, dans la maladie d'Alzheimer. Donc j'avais été confronté à cette recherche de médicaments dans mon passé, avec les techniques très précises de recherche du médicament et de pharmacovigilance. Par ailleurs, le travail sur l'hypertension artérielle était un travail de réflexion sur la physiologie de l'organisme, le sel, l'eau, le rein. Donc il y a une pensée physiologique derrière la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et le côté santé publique vient de cette réflexion aussi sur le sel, avec l'avantage qu'il y a dans une population à diminuer la quantité de sel pour diminuer les maladies cardiovasculaires. D'autre part, dans l'hypertension artérielle, comme dans la maladie d'Alzheimer, la position sociale des gens est extrêmement importante pour la qualité de leur prise en charge. Les gens qui sont les plus défavorisés ont beaucoup plus de difficultés à être traités et, quand on a une maladie d'Alzheimer, à trouver les accueils nécessaires. Donc il y a beaucoup d'aspects et cette raison-là probablement m'a intéressé alors que je ne pensais pas à la maladie au moment où on a parlé.
Oui, donc première réponse scientifique, oui. Mais je vois d'emblée que vous élargissez le champ de scientifique à non seulement la recherche, mais aussi à une science qui est une science sociale, finalement, hein, ce qui est très important dans ce domaine. Qualité organisationnelle, bah oui, là, ça me paraît une évidence. Vous avez occupé des fonctions à la Direction générale de la Santé, où vous animiez des groupes et des réflexions organisationnel considérable. Accompagnement, alors, ça rejoint un peu le problème de la maladie chronique, de la nécessité d'une prise en charge, comme dans les modèles ou dans les affections que vous connaissiez bien.
Le point qui est important, c'est de dire que c'est une maladie chronique. Ça veut dire qu'elle va durer plusieurs années. Mais par rapport aux autres maladies chroniques que j'ai pu connaître et soigner directement, c'est très important de soigner directement les gens avant de parler de la médecine. Le point qui caractérise cette maladie, c'est la survenue de troubles du comportement et puis l'incapacité à s'adapter au milieu du fait des troubles de la mémoire. Quand vous avez un diabète avec des complications au niveau du pied, au niveau des vaisseaux, vous êtes extrêmement handicapé, il faut organiser autour de vous tout un système d'accompagnement. Mais vous n'avez pas de troubles du comportement, vous discutez avec votre famille, vous reconnaissez les gens. La maladie d'Alzheimer, de ce côté-là, est tout à fait particulière parce que non seulement la personne elle-même a de la difficulté à survivre où elle est, mais la perception qu'a d'elle les personnes qui la connaissent bien est complètement changée. Donc ça entraîne une souffrance des deux côtés. Quand vous avez fait un accident vasculaire cérébral, c'est terriblement handicapant d'avoir une hémiplégie, d'avoir une aphasie. Mais vous avez des moyens de communication, vous avez des rééducations possibles, vous existez à l'intérieur de la société qui vous entoure et à l'intérieur de votre famille. Dans la maladie d'Alzheimer, vous vous échappez et donc les gens qui sont autour de vous en souffrent. Et c'est ça, je crois, qui caractérise beaucoup la maladie d'Alzheimer, parce qu'en plus, ces personnes-là ont un passé. Elles ont vécu autrefois avec un certain caractère, avec des comportements, et brusquement, on ne les reconnaît plus. Donc, oui. Une charge affective
très forte. J'ajouterais un autre élément à ce que vous venez de dire, c'est le fait qu'il y a aussi parfois, dans cette maladie, dès le début, une méconnaissance de la part du patient de la réalité de la situation dans laquelle il se trouve.
Voilà, il oublie. Et en même temps, il est possible aussi qu'il se défende, qu'il mette au point des mécanismes pour se protéger. Ouais. Et à ce moment-là, le dialogue avec le conjoint, avec les enfants peut être difficile. C'est pour ça que la prise en charge est difficile. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans le plan à la fin, on termine sur 5 ans avec 200 millions d'investissements sur la recherche, 200 millions d'investissements sur les soins et 1 milliard 200 millions sur l'accompagnement des familles, puisque globalement, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer en France, je parle à la louche, mais arrivé à un certain niveau sur l'argent, on peut se permettre de le faire comme
oui,
ça,
oui.
C'est 10 milliards par an. Et là, les chiffres que je vous donne sont des chiffres sur 5 ans, avec une prédominance sur l'accompagnement social.
Voilà, donc ce plan Alzheimer, vous avez tout de suite dit à combien il s'élevait, une somme de 1 milliard 600 millions d'euros
sur 5 ans.
Sur 5 ans qui est alloué à ce plan. Alors, ce plan Alzheimer, on va dire 4 ans après, je vais pas vous demander le regard que vous portez sur lui parce que ça sera plutôt un sujet à aborder un peu plus loin, mais j'ai envie de vous dire comment il est né, ce plan. Tout à l'heure, je disais, finalement, Jacques Chirac s'est emparé du cancer et il a fait un plan cancer dont la déclinaison a donné des résultats très rapides et positifs globalement. Hein. Le plan Alzheimer, pour vous, au départ, c'était un peu l'équivalent pour une maladie tout aussi lourde, sévère, 5 ans après ?
Oui, je crois que la France a sur des durées de 5 à 10 ans une approche de la santé publique qui se déroule de manière relativement lente, disent certains. Mais enfin, hein, on voit les résultats sur l'espérance de vie à tous les âges. Les résultats des 50 dernières années ont été bons. Donc si on n'avait pas des résultats, si on a ces résultats-là, c'est qu'il y a une politique de santé publique. S'il n'y avait pas eu de politique de santé publique, on n'aurait pas des résultats comme ceux-là. Mais il faut de temps en temps donner des impulsions. Et les impulsions peuvent venir soit d'une analyse de la situation de santé publique, qui est évidente et pour le cancer et pour la maladie d'Alzheimer, soit aussi d'un mouvement affectif. Je ne pense pas qu'on fasse systématiquement dans la vie des choix qui reposent sur des chiffres. Ils peuvent reposer aussi sur des perceptions de la société parfois ou des perceptions des décideurs d'autrefois. Donc je crois que c'est dans cette direction-là qu'on pouvait concevoir le plan Alzheimer. Il y a des techniques, on peut dire on a des objectifs, on a des indicateurs. On peut dire aussi qu'est-ce que c'est qu'un plan de santé publique impulsé par le président de la République ? C'est une mobilisation de la société. Donc moi je l'ai plutôt vu comme une forme de mobilisation de la société, les scientifiques, les médecins, les familles, les associations de malades, toute cette mobilisation-là me semble importante. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est flou. C'est pas des chiffres avec des pourcentages, mais c'est dans l'idée qu'on pouvait se faire, je crois, de la maladie à cette époque-là. C'était correct d'entraîner tout le monde. Et le plaisir que j'ai éprouvé, ça a été de voir comment la responsable du plan, qui s'appelle Madame Lussmann...
Oui, femme remarquable, Florence Lussmann.
Elle a fait marcher le plan d'une manière, avec une toute petite équipe de 4 personnes, elle a fait marcher un plan qui met en jeu toutes les directions d'administration, toutes les agences de l'État, toutes les régions... qui nécessite de mobiliser les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, qui nécessite de mobiliser les conseils généraux. Et la gestion du plan tel qu'elle la réalise en projet, c'est une gestion de projet, permet de faire travailler les gens dans un cadre qui n'est pas un cadre classique. Au lieu de répondre à leur directeur hiérarchique usuel, ils répondent sur ce modèle-là à des responsabilités qui ont été divisées en 44 parties. Et pour chacune des 44 responsabilités, il y a de manière transparente, visible sur les sites internet, des responsables qui viennent des agences, des directions, des médecins. Il y a partout des responsables pour chacune des 44 mesures du plan.
Oui, mais en vous entendant comme ça, Joël Ménard, j'ai envie de vous dire pourquoi on ne ferait pas des plans pour tout ? Parce que ce que vous vantez là, et c'est la réalité, c'est le fait que finalement, quelque part, on en arrive à court-circuiter l'administration ou les administrations et leur lourdeur. Dites-nous ce que vous pensez de ça, parce qu'il faut y aller carrément.
La France, à une époque où je n'étais plus du tout dans l'administration, mais en disant en 2004, la France a décliné une loi de santé publique en montrant 104 problèmes importants. Et les choses se déroulent le mieux possible sur ces 104 directions, ou une centaine. Mais on ne peut pas mener... sur le rythme qui a été donné au plan cancer, au plan Alzheimer, on ne peut pas mener les choses comme celle-là. C'est une mobilisation en plus. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que souvent on dit, tiens, c'est une priorité. Quand on dit le mot priorité, les autres disent, mais moi, je n'existe plus.
Ça fait des jaloux.
Ça peut faire des jaloux.
Et ça en fait.
Ça en fait. Et ça se comprend très bien. Mais il y a un moment où, si on veut progresser, il faut tout faire marcher et rajouter quelque chose de plus quelque part. Il se trouve que le président Chirac avait choisi la violence routière, le handicap et le cancer. 3, un pays de 60 millions d'habitants sur un intervalle de temps de 5 ans, vit avec ses directions d'administration, ses médecins, ses professionnels, ses ARH, ses ARS. Tout ça tourne. Les gens se plaignent tout le temps, mais tout tourne quand même. Et puis, en plus, on fait un effort. Alors là, en plus, l'effort, c'est assez facile à calculer. Tous les ans, nous utilisons 10 milliards pour soigner les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et pendant une période de 5 ans, il va y avoir 1 milliard 600 millions de plus sur 50 milliards. Donc c'est ça les chiffres. Et la question d'après est de savoir, quand on fait un investissement, où est-ce qu'on peut faire l'investissement le mieux possible. Et à la fin, on essaye d'investir de manière équilibrée entre la recherche, le soin et l'accompagnement.
Oui, ça devient assez clair finalement en vous entendant. Mais
je crois que c'est clair, mais c'est pas très bien compris.
Soit oui, parce que c'est pas non plus très bien perçu par tout le monde.
Oui, alors c'est pour ça qu'il faut toujours répéter la priorité. Ce n'est pas le fait qu'on est dans un bus avec quelqu'un qui est assis et qui va perdre son siège pour le donner à quelqu'un d'autre. Tout le monde reste assis, mais en plus on met un siège de plus.
Très bien. Mais alors on va parler du siège qui vous intéresse, c'est-à-dire le siège Alzheimer. Tout le monde sait, parce que je le disais à l'instant, il n'y a pas une famille qui ne soit pas touchée. Mais pour les rares qui ne seraient pas encore au courant de ce qu'est cette maladie, vous, responsable de ce plan, responsable scientifique, dites-nous ce que c'est que cette maladie, comment on la conçoit aujourd'hui.
Alors, comme vous l'avez rappelé au départ, au moment où je démarre, je ne connais rien. Je n'ai aucune légitimité sur la maladie d'Alzheimer. Donc il fallait que je prenne une place, une position, un point de vue. Et je me suis mis dans le point de vue de la personne malade ou de sa famille. C'était le seul point de vue que je pouvais prendre. Je ne pouvais pas me considérer comme un neurologue, comme un gériatre ou comme un psychiatre, qui sont les trois grandes disciplines qui travaillent autour de la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai essayé de raisonner en me mettant à la place des personnes malades que j'avais connues, comme vous l'avez dit, tous les Français, à un moment ou à un autre, dans leur famille, verront ce que c'est. Ils iront dans une maison de retraite et ils verront ce qui se passe. Donc c'est relativement simple de se mettre dans la place de la personne malade. Et à ce moment-là, comme en même temps je suis médecin, je découvre le milieu et je découvre la maladie. Et je dois dire que sur le plan intellectuel, cette découverte et de la maladie et de ceux qui travaillent autour a été extrêmement intéressante, puisque ces personnes-là m'ont appris ce qu'était techniquement la maladie d'Alzheimer, soit dans le soin, soit dans l'accompagnement. Et comme ça, on peut reconstruire ce qu'est la maladie et aider aussi, d'une chose qui est tout à fait particulière pour la maladie, des romans, des livres que les gens ont écrits et des films. Donc quand on veut bien comprendre la maladie d'Alzheimer, on peut lire des livres de médecine, mais il est encore mieux d'aller voir un certain nombre de films ou de lire certains livres qui ont été écrits par les familles des malades, voire par les malades eux-mêmes au début de leur maladie. C'est-à-dire que pendant une période qui va varier d'un moment à l'autre, de 1 an à 5 ans, les troubles de la mémoire apparaissent, ce qui est le signe de départ le plus fréquent. Ce n'est pas le seul signe de départ de la maladie. On l'assimile souvent, on dit mémoire et Alzheimer, c'est bien, mais ce n'est pas la seule manifestation initiale, ça il faut bien le savoir. Il y a des diagnostics à faire en finesse. Mais disons, le trouble de la mémoire est le premier symptôme. Et les spécialistes m'ont expliqué la beauté de leur distinction avec la mémoire épisodique ou autour d'un événement pour une raison qui tient parfois à l'affectivité, au contexte émotionnel. Vous mémorisez des détails. Et cette mémoire épisodique est comme cette mémoire des faits récents aussi, la plus touchée, la première touchée. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau parce qu'on parle toujours d'Alzheimer, mais on oublie Théodule Ribot. Et Théodule Ribot, qui était professeur à la Sorbonne et au Collège de France, avait eu l'astuce d'aller voir à la Pitié-la-Salpêtrière Charcot. Et il y a eu une rencontre entre un neuropsychologiste naissant qui était Théodule Ribot et Charcot. C'était un premier lien entre des médecins et des non-médecins qui était extrêmement important puisque Ribot avait raconté la loi de régression de la mémoire où on perd d'abord les faits récents et on garde le plus longtemps en mémoire les faits anciens. Notion très importante pour accompagner les malades après, puisque l'aide qu'on peut leur donner dépend beaucoup des souvenirs qu'ils ont accumulés au cours de leur vie et qu'il faut chercher à comprendre. Donc ce premier stade de la mémoire qui disparaît le premier, la mémoire épisodique. Et puis, ce qu'on appelle la mémoire sémantique, qui est organisée, qui n'est pas une mémoire de l'instant, mais qui vous fait mettre à une place X de votre cerveau. Et au milieu du plan Alzheimer, j'écoute ce que me disent mes collègues, l'hippocampe, une partie temporale du cerveau. Mais j'écoute tout ça avec beaucoup de méfiance quand même. Eux ont moins de méfiance que moi, moi j'en ai un petit peu plus, peut-être parce que je comprends pas, mais aussi parce que j'ai en science, je pense que le doute est très important. Donc le deuxième niveau de la mémoire est ce niveau de mémoire sémantique, qui ne va pas garder l'instant, la couleur, la voix, qui va être structurée. Et puis, le dernier type de mémoire qui persiste très longtemps est la mémoire procédurale, qui est celle que l'on utilise, par exemple, quand on monte sur un vélo où on ne se pose pas la question de savoir comment il faut pédaler. Donc, j'ai essayé de comprendre toute cette physiologie, avec comment le cerveau marche derrière ces choses-là. Et puis, le deuxième temps de la maladie d'Alzheimer, c'est le trouble du comportement, puisque à un certain moment, ne pouvant plus rien mémoriser, l'absence de mémoire se caractérise par des comportements qui peuvent sembler aberrants, puisque les gens ne savent plus où ranger leurs affaires, peuvent même mettre des chaussures dans le frigidaire, enfin aboutir à des choses tout à fait extraordinaires à partir du moment où ils ne se rappellent plus ce qu'est un frigidaire, ce qu'est une tasse. Et puis il y a aussi de temps en temps des troubles psychologiques et psychiatriques, avec des épisodes d'apathie, avec un diagnostic difficile par rapport à la dépression. Est-ce que c'est une dépression ou est-ce que c'est ce défaut d'activité qui survient dans certains cas de la maladie d'Alzheimer? Et puis d'autres fois, des épisodes d'agitation qui peuvent naître d'ailleurs dans une situation de déni. La personne a remarqué qu'elle avait ces troubles-là, mais les refuse. Et on lui dit sans arrêt qu'elle a fait des bêtises. Donc elle réagit, elle devient agressive. Et l'agressivité gêne la famille, pose des problèmes à la personne elle-même. Et on a tous les cas de figure. Et ceci sur un intervalle de temps qui va être de 3, 5, 7 ans. Et avec des épisodes variables d'un moment à l'autre. Autrement dit, c'est une simplification de dire la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, c'est une maladie très variable d'une personne à l'autre, et chez la même personne, au cours de la vie, il faut se préparer à avoir des comportements qui vont être différents. Et donc, il faut organiser autour de cette personne l'ensemble des soins qui sont possibles.
Alors justement, puisqu'on parle de ça, d'abord, bravo pour cette synthèse de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, avec ses substratums anatomiques dont on reparlera tout à l'heure probablement, puisque ça oriente la recherche. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes qui renvoient à ce qu'est une bonne partie du plan Alzheimer, c'est-à-dire l'organisation de la prise en charge et le premier temps de la prise en charge, c'est-à-dire le diagnostic. Alors, sur ce sujet-là, dans le cadre de ce plan, comment est-ce que vous avez conçu les choses?
Premièrement, on regarde quels sont les défauts du système au moment où on l'aborde. Est-ce que le système marche bien? Est-ce que le système marche mal? Et la première chose qu'il faut savoir est de se dire que les diagnostics trop tardifs, sont une véritable question. Pourquoi? Parce que on a considéré comme banal le fait de perdre un petit peu la mémoire. Il ou elle a 75 ans, 80 ans, c'est normal à votre âge. Et à force d'avoir dit c'est normal à votre âge, la famille, le médecin, les gens qui entourent, on arrive à trouver des personnes qui sont à un stade avancé de la maladie. Alors là-dessus, les gens vous disent mais ça n'a pas d'importance puisque vous n'avez pas de traitement. Premièrement, on a des médicaments qui, sans être extrêmement efficaces, améliorent un peu la qualité de vie à certains stades de la maladie avec discrétion. C'est pas formidable, mais surtout ce qu'on oublie, c'est que les gens ont parfaitement le droit d'organiser leur vie, de prévoir ce qu'ils veulent faire, ce qui va leur arriver. Il faut trouver le moyen de leur expliquer avec énormément de tact, parce que s'ils ont un droit, c'est celui d'organiser leur vie à un moment où ils sont encore parfaitement capables d'exprimer leurs valeurs humaines, ce qu'ils imaginent pour leur conjoint, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et il y a un moment, si on ne l'a laissé passer ce moment-là, ils ne pourront plus s'exprimer. Donc la justification de faire le diagnostic à un stade qui ne soit pas tardif existe parfaitement, c'est de donner aux gens leur liberté. Et d'ailleurs, le plan est caractérisé par une des mesures particulières, des mesures d'éthique. On a mis 400 000 euros pour que les gens, la société, les philosophes, les juristes, les éthiciens pensent à ces problèmes-là, qui sont compliqués. Ce n'est pas seulement un problème technique, ça pose la question de savoir qu'est-ce que les gens ont le droit de savoir et de faire. Et puis, quand on réfléchit après au mécanisme de la maladie, bien sûr, on veut d'abord, le médecin, le scientifique, on veut trouver un traitement qui empêche l'évolutivité de la maladie. Pour être très rapide, l'évolutivité de la maladie, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, le cerveau diminue de taille. Il y a certaines zones qui diminuent plus vite que d'autres, mais le cerveau diminue de taille, on perd les cellules qui sont nécessaires à toutes les fonctions qui sont les neurones, et les cellules autour d'ailleurs sont également un peu altérées. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, le nombre de cellules diminue, les communications entre les cellules qu'on appelle les synapses se raréfient, et le cerveau ne marche plus. Il est donc parfaitement logique que le corps médical se dise « nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'événement initial ». Parce que si on intervient au moment où se produit le mécanisme initial, on va empêcher la dégradation progressive qui va se faire sur une durée. Et là, on parle de durée plus longue, hein, car il est tout à fait probable que la maladie commence plus tôt que ce qu'on croit. Mais on se dit, si on était capable d'intervenir d'une manière quelconque pour empêcher cette évolutivité de la neurodégénérescence, bien, on serait efficace. Et d'où la réflexion d'essayer non seulement de ne pas faire le diagnostic trop tard, mais de faire un diagnostic précoce. Alors, point très important, il n'est pas question aujourd'hui de faire un dépistage et il faut bien comprendre quelle différence il y a entre un dépistage et un diagnostic. Si quelqu'un se plaint, ou si la famille autour de la personne se plaint, le médecin répond en faisant un diagnostic. Si la personne ne se plaint de rien et que le médecin fait un geste dans sa direction pour rechercher quelque chose, un signe ou un symptôme, on fait un dépistage. Le dépistage est une stratégie médicale chez quelqu'un qui ne se plaint de rien. On dépiste le cancer du sein par des mammographies tous les 2 ans, de 50 à 74 ans, chez des femmes qui ne se plaignent pas de leur sein. Quand quelqu'un se plaint d'un trouble de la mémoire, très souvent, il s'agit d'un trouble de l'attention. Il ne s'agit pas d'une maladie. Maintenant, les gens ont souvent tendance à dire « Oh, tiens, j'ai oublié mes lunettes, je dois avoir l'Alzheimer ». Non, ce n'est pas ça. Mais toutes les fois qu'on se plaint de la mémoire, il faut que le médecin fasse attention à la plainte. Et on peut faire des tests relativement simples qui vont permettre soit de rassurer, soit d'attirer l'attention. Mais là, on est dans une circonstance où il y a plainte et réponse médicale. Quand on fait un dépistage, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose chez quelqu'un qui ne se plaint de rien, ce qui quand même peut l'affoler, enfin lui poser des questions, on a le droit de faire des choses comme celle-là que si on a un suivi parfaitement organisé et une attitude active à proposer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va quitter, je l'espère, l'époque du diagnostic tardif. On va arriver de plus en plus à un diagnostic précoce, sans dépistage, et dans 10 ans, 20 ans, tout est concevable.
Alors, derrière ça, il y a le problème de l'annonce.
Oui.
Alors, là-dessus.
Pour un médecin qui soigne des patients, l'annonce est toujours un moment difficile, important de l'exercice médical. Quand on annonçait en 1965, 70, 75 aux gens qu'ils avaient une hypertension artérielle, c'était à l'époque perçu comme quelque chose d'un coup de massue. J'ai même vu un médecin en 1976 qui a fermé son cabinet de consultation et qui est venu en urgence me voir pour me dire « je sais que ma vie est finie, on m'a trouvé 25-15 de pression artérielle, je suis foutu ». Or, en 1967, 25-15 de pression artérielle, c'était plus du tout, c'était pas le cas, on pouvait parfaitement traiter. Donc la vision qu'on a d'une maladie est toujours vécue comme une sorte de coup de massue, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le cancer, c'est pareil. Donc il faut que les médecins aient là-dessus une réflexion globale, comment on approche les personnes, et ce qui fait la difficulté du sujet, c'est que chacun d'entre nous est différent. Dans son degré d'anxiété, dans son degré de je m'en foutisme, tout peut se voir. Mais le point qui est important, c'est le temps. L'annonce, c'est du temps. On ne fait pas une annonce en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. C'est une écoute très prolongée de la personne et la caractéristique ici de la personne en premier et de sa famille en deuxième. Mais j'insiste bien, la personne en premier, la famille en deuxième, du temps. Et après, de trouver les mots qui vont montrer ce qu'est l'évolution de la maladie, en sachant bien que malheureusement, comme toujours en médecine, le médecin ne sait pas les délais. On ne sait pas si c'est 1 an, on ne sait pas si c'est 5 ans, on ne sait pas si c'est 10 ans. On dit à quelqu'un, vous avez du cholestérol, ou vous fumez, eh bien, vous allez faire une maladie qui est facilitée par le cholestérol ou le tabac, mais vous ne savez pas si vous la ferez et quand vous la ferez, puisqu'on sait très bien qu'il y a des gens de 80 ans qui ont fumé toute leur vie. Madame, notre doyenne, avait même elle-même continué à fumer extrêmement longtemps. Mais on fait une prédiction en disant « méfiez-vous ». Et là, on peut dire aux gens, quand on a fait les tests appropriés, des tests neuropsychologiques, des tests d'imagerie et probablement dans quelques temps des tests de biologie, on peut dire aux gens, vous avez la certitude d'avoir la maladie, mais la vitesse avec laquelle elle a évolué, on ne le sait pas. Donc l'annonce est difficile, comme toujours, puisqu'on va perturber profondément la vie d'une famille. Et elle est rendue difficile par le fait que la médecine doit être humble et que nous n'avons pas devant nous de certitude. Les gens qui voudraient une certitude, on ne peut pas la donner.
Vous écoutez Avec ou sans rendez-vous, l'émission médicale de France Culture qui est consacrée aujourd'hui au plan Alzheimer. Et notre invité est le professeur Joël Ménard qui est aujourd'hui le président du conseil scientifique de la fondation Plan Alzheimer. Alors Joël Ménard nous a rappelé, partant de ces chiffres très forts et impressionnants, que sont le nombre de patients souffrant aujourd'hui en France d'une maladie d'Alzheimer, 800 000 à 1 million d'entre nous, toutes les familles sont, on va le dire, touchées, l'importance de mettre en place des structures adaptées de prise en charge et d'accompagnement. Alors la prise en charge, ça commence par le diagnostic, et Joël Ménard a insisté sur l'intérêt de faire un diagnostic précoce, je dirais de manière simple, au nom de la liberté. Faire un diagnostic précoce, c'est donner la possibilité aux patients qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, c'est lui donner la liberté de faire des choix pour l'avenir et d'orienter et de préciser clairement à ses proches, à son entourage, ce qu'il souhaite faire, envisage de faire. Ce diagnostic précoce est évidemment tout à fait à l'opposé de la notion même de dépistage, c'est-à-dire que le dépistage s'adresse à des gens qui ne se plaignent de rien. La politique du plan Alzheimer, c'est chez des gens qui se plaignent de quelque chose. Et tout n'est pas maladie d'Alzheimer. Joël Ménard a insisté sur le fait que une dépression, des troubles attentionnels pouvaient donner l'apparence, comme ça, en première approche d'une maladie d'Alzheimer. Mais que, dans la grande majorité des cas, ça n'était pas une maladie d'Alzheimer. Donc, chez des gens qui ne se plaignent de rien, pas de dépistage, pas de test. Derrière le diagnostic précoce, et plus on est précoce dans le diagnostic, plus ce sujet a d'importance, il y a la question de l'annonce. Et je dirais, derrière l'annonce, il y a évidemment l'introduction de la notion d'une gestion de l'incertitude. C'est la gestion de l'incertitude, évidemment, par le patient et la famille pour essayer d'anticiper sur ce que va être, je dirais, la rapidité évolutive de la maladie. Gestion de l'incertitude aussi de la part du médecin, qui se trouve dans des situations souvent très inconfortables, parce que donner un diagnostic, c'est une chose. Répondre à des questions auxquelles, malheureusement, dans la plupart des cas, on ne sait pas donner des réponses précises, mais dans une situation délicate. Et donc, j'ai envie de dire, ce problème de l'annonce, c'est un moment crucial dans cette histoire aujourd'hui qui reste tragique de la maladie d'Alzheimer. Alors, à côté de l'organisation de la prise en charge diagnostique, de l'annonce, dans des centres qui ont une expérience dans ce domaine, il y a d'autres mesures à prendre qui concernent l'accompagnement. Et je rappelle que sur ce plan Alzheimer, dont le budget s'élève à 1,6 milliard d'euros sur 5 ans, une grande part, 1,2 milliard d'euros, est consacrée à l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce domaine, Joël Ménard ?
Le point de départ a été d'écouter les gens et d'interroger environ une centaine de personnes et de prendre en compte aussi les efforts que la France avait fait sur le sujet depuis 2001, hein, pratiquement. Donc, on a partout quelque chose. Et il y a des endroits où ça marche remarquablement bien et des endroits où ça ne marche pas du tout. Donc, presque une centaine de personnes ont fait l'analyse de la situation au niveau général de la France parce que la caractéristique pour l'accompagnement est de s'adapter aux régions et dans les régions aux départements et dans les départements au niveau de richesse, au niveau de contribution du Conseil général, à la géographie. Donc il n'y a pas, par opposition à la médecine, on peut faire des règles générales de bon sens, le médecin généraliste est au centre du système, il fait le repérage des gens malades, on va voir un neurologue de ville, on va dans une consultation de mémoire, et puis après une période de 3 à 6 mois, on a le diagnostic, donc la partie médicale s'est structurée. Mais après, comment on va aider la personne à continuer à vivre? On ne va pas pouvoir changer sa maladie, donc il va falloir qu'on change son environnement. Et pour changer son environnement, elle ne va pas pouvoir le faire complètement toute seule, puisqu'elle oublie, au minimum, elle oublie. Donc, c'est la famille qui va aider. Et la famille est désarmée parce que le nombre de professionnels concernés est absolument énorme. Si, par exemple, on estime nécessaire d'abord de revoir la maison, il faudra aller dans la maison elle-même pour mobiliser des ergothérapeutes. Si certaines fonctions sont plus touchées que d'autres, par exemple, on parle mal, il va falloir rééduquer la parole. On aura affaire à des orthophonistes, on aura affaire à des psychomotriciens, on aura certaines praxies qui sont diminuées, on aura affaire à des kinésithérapeutes. Donc la question est d'abord de quoi cette personne-là a besoin, qui est différent d'une autre, et puis où on va trouver cet appui. À quelle porte faut-il frapper? Donc dans les plans, il y a une mesure qu'on appelle la mesure 4, qui a pour but c'est un acronyme MAIA, la maison pour l'autonomie, l'intégration des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Mais c'est surtout un concept qui a pour but, dans une zone géographique donnée, de faire que n'importe quelle personne pourra savoir à quel numéro de téléphone s'adresser et à quel endroit s'adresser pour systématiquement trouver les ressources nécessaires. Si on voulait faire très bien les choses, il faudrait pratiquement, et on ne peut pas continuer à faire c'est pas le médecin qui peut le faire, il faudrait pratiquement passer un après-midi à passer des coups de téléphone pour s'organiser. Donc ce n'est pas possible. Et d'autre part, il y a des structures en place dont certaines marchent très bien, avec des noms très divers, les CLIC, les MADPH, les réseaux. Donc il y a des choses qui sont disponibles. Mais comment les faire marcher ensemble? Donc, toute la réflexion du plan a abouti à cette mobilisation par des appels d'offres où on a demandé sur des zones géographiques déterminées que les gens proposent des projets qu'on a appelés MAIA, 120 projets, dès le premier appel d'offres qui ont été envoyés. On en a sélectionné 17, très exactement. Ils ont été accompagnés par une cellule d'accompagnement et d'aide, c'est le docteur Olivier Dupont qui s'est occupé de cela. Et les 15 personnes qui essayaient d'organiser différemment leur région étaient toujours entourées de ceux qui avaient fait une demande de projet pour voir comment allait se dérouler cette mise en commun des ressources endroit par endroit. Et selon les endroits, de temps en temps, le leader était un réseau, de temps en temps, un réseau de gérontologie, de temps en temps, c'était ce qu'on appelle un CLIC, qui avait déjà été créé autrefois pour aider les personnes âgées en général, et le recensement de toutes les ressources. Pas seulement les ressources médicales ou paramédicales, mais aussi, il faut une certaine compréhension des ressources financières. Alors là, je vais me permettre de vous donner quelques chiffres qui sont frappants. La médiane des retraites de l'homme en France est de 1200 euros. Et la médiane de la retraite des femmes est de 800 euros. Au moment où la maladie d'Alzheimer commence dans ses formes extrêmement débutantes et au tout début, on peut avoir simplement besoin d'une petite aide à domicile. On ne va pas tout de suite avoir besoin de choses très importantes, mais il va falloir commencer quand même à donner de l'argent, à trouver de l'argent. Eh bien, au total, sur un intervalle de temps de X années, je vais mettre de 2 à 10 ans pour être extrêmement large et pour bien montrer la marge d'incertitude, la somme d'argent supplémentaire qu'il va falloir mobiliser va aller de 500 à 3000 euros. Et là, on part d'une richesse de la personne elle-même, médiane, de 1200 euros. Et c'est pour ça que le débat sur la prise en charge de la dépendance, le débat financier, est un débat extrêmement important. Et vous remarquerez que dans le plan, aucune des personnes qui ont fait le plan ou qui le mènent actuellement n'a discuté ce point-là. Parce que nous, notre problème était de donner le meilleur soin et le meilleur accompagnement. Et puis l'autre versant, c'est au meilleur coût possible. Ça, on peut aider. C'est-à-dire qu'on peut chercher ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est indispensable et qui n'est pas donné. On peut techniquement faire ce travail-là. Mais après, il faudra savoir qui paye. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des taxes? Est-ce que c'est des cotisations? Est-ce que c'est des assurances? Donc il y a un débat national, débat politique, dans lequel le plan ne rentre pas. Le plan cherche à dire, pour que les gens soient bien soignés, voilà ce qu'il faut. Pour que les gens soient bien soignés, il y a des choses qui ne servent à rien. On ne les fera pas.
Est-ce que ce n'est pas une limite de ce plan?
Ah ben la limite du plan, elle va. Le plan a pour but de mettre les choses en place. Comment pouvez-vous proposer de payer quelque chose si vous ne savez pas ce que vous payez? Donc nous, on essaye qu'il y ait des règles de qualité qui a été édictées indépendamment. Alors, les réponses à ça, j'en ai entendu de plusieurs. La première possibilité est de dire, vous êtes des rêveurs, vous voulez échapper aux réalités. Non, nous, on veut protéger les malades et leurs familles. Et après, on veut que les hommes politiques, la société, prennent leur choix.
Bien sûr.
Ils font leur choix. Mais nous, on dit, de toute façon, vous ne pouvez pas échapper à payer tant, puisqu'on sait les données démographiques, on sait que le nombre de gens âgés de plus de temps de 70 ans va augmenter. On peut le calculer. Et après, on a aussi d'autres types de calculs à faire techniques qui sont de savoir si on peut diminuer l'incidence de la maladie par la prévention. Et puis, on a un autre risque qui avait été un peu sous-estimé dans les dernières années, c'est les malades jeunes. C'est-à-dire que notre histoire de bien attirer l'attention sur le fait que cette maladie est associée à l'âge, autrement dit, elle double tous les 5 à 10 ans, elle double tous les 5 ans, à partir de 70 ans. On avait oublié que la maladie existe chez des personnes de moins de 60 ans. Qui n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons de retraite
bien
et qui
sûr,
n'en ont pas envie.
Sûr, oui.
Et d'autre part, quand quelqu'un fait une maladie d'Alzheimer à moins de 60 ans, ça pose quand même un problème. Donc dans les mesures du plan, l'une qui est très importante est celle qui a transformé cette maladie fréquente en un centre de maladies rares, pour ne pas oublier ce versant des maladies rares. Et on a des médecins qui sont à Rouen, le professeur Hennequin, le docteur Campion, on a des médecins à Lille, le professeur Pasquier, on a des médecins à La Pitié et à La Salpêtrière, le professeur Dubois, qui mènent cette réflexion sur les malades jeunes, dont le nombre est de 8000 en France. Donc, dans une année, la prévalence est dans un peu plus de 8000 personnes. Et qui sont en situation extrêmement difficile, parce que tous les troubles que l'on voit chez les personnes âgées, qu'on trouve déjà bien difficiles à supporter, quand ça survient dans une famille chez des gens qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, tout se double au point de vue de difficulté. Donc cette partie-là est importante. Et oui, nous savons que tout ce que nous proposons dans les réformes d'accueil adaptées aux gens coûte cher, mais notre boulot, tous les gens qui travaillent autour de Madame Lussmann, tous les gens partout cherchent à savoir ce qui est efficient, c'est-à-dire ce qui rend service dans des limites qui soient raisonnables, en ne faisant pas faire n'importe quoi, des examens à tout le monde qui ne serviraient à rien, etc.
Alors, Joël Ménard, on a bien vu ce point-là. Je crois que c'est quand même un élément essentiel. Je voudrais simplement faire une remarque, c'est que un des moyens de faire que ce plan Alzheimer prenne véritablement toute son ampleur, c'est de se dire que les problèmes que vous soulevez, en particulier cette dernière question de la prise en charge de l'Alzheimer du sujet jeune, finalement, ils se transposent à d'autres maladies, tout à fait différentes, évidemment, mais qui sont caractérisées aussi par un handicap qui touche quelqu'un de jeune, qui est définitif, qui va créer une dépendance, et qu'une des manières de sortir de cette critique dont on parlait, qu'on formulait tout à l'heure concernant ce plan, soit qu'on ouvre après les portes et qu'on entame une réflexion véritable sur comment prend-on en charge des gens jeunes victimes d'un handicap grave et durable. Voilà le commentaire que
Votre commentaire me fait extrêmement plaisir parce que la maladie d'Alzheimer, oui, c'est une neurodégénérescence, mais la maladie de Huntington, ce n'est pas simple
par exemple,
non plus.
Voilà.
Et puis tout ce qu'on raisonne pour accompagner à l'autre versant, tout ce qu'on fait autour des personnes âgées, c'est terrible d'avoir une maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des personnes âgées qui ont des maladies terribles. Et
voilà.
Le raisonnement s'applique à d'autres domaines.
Donc, comme on dit que ça serve de modèle.
C'est exactement ça. Exactement.
Alors, on arrive à un autre point très important, et on va aller un peu plus vite sur ce sujet, malheureusement, mais ça concerne la recherche. Pour vous aujourd'hui, dans le cadre de ce plan Alzheimer, vous avez privilégié un certain nombre de thèmes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire brièvement? Le premier d'entre eux étant, vous y avez fait allusion, essayer de trouver un test diagnostique.
Oui, mais pour ça, il faut comprendre ce qu'est la maladie. Donc, il faut faire des tests qui correspondent à des hypothèses ou à des analyses des mécanismes de la maladie. Donc, je dirais que la maladie, on peut l'imaginer dans trois directions. Première direction, une maladie des protéines, c'est-à-dire les constituants majeurs de l'organisme, en particulier des neurones. Et il existe dans le cerveau, et ça existait déjà sur les lames de Alzheimer en 1906, il existe des protéines anormales de plusieurs types. En général, on attire surtout l'attention sur deux types de protéines. D'une part, l'une qui fait un dépôt en dehors des cellules, qui est un dépôt de substances amyloïdes, première hypothèse, il y a une anomalie des protéines qui aboutit à des dépôts à l'intérieur du cerveau qui vont entraîner la mort des cellules qui vivent, qui sont les neurones, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a à l'intérieur du neurone, pour maintenir leur vie, pour que la circulation de l'information se fasse du noyau jusqu'à l'extrémité du neurone, il y a des protéines qui font la structure, l'échafaudage du neurone, les protéines tau, et ces protéines ont des structures anormales dans les mécanismes qu'on appelle des mécanismes de phosphorylation des protéines. Et cet ensemble d'anomalies de protéines, j'en cite rapidement deux, mais il y en a beaucoup d'autres,
très bien,
aboutissent finalement à la mort du neurone, à l'apoptose, la mort programmée. Donc, à partir de là, on cherche à faire des tests diagnostiques de deux types, là aussi. Les uns consistent à aller chercher, de préférence dans le liquide céphalo-rachidien par une ponction lombaire, les protéines anormales que l'on peut maintenant mesurer dans le liquide céphalo-rachidien. Et là-dessus, il faut bien être très clair. En France, on avait la caractéristique d'avoir très peur de la ponction lombaire. Donc moi, j'ai fait une méningite, j'ai une ponction lombaire, j'en parle avec beaucoup de facilité. Je pense qu'il faut totalement dédramatiser la ponction lombaire bien faite, avec les aiguilles qu'on a maintenant. Simplement, il faut que le dosage soit bien fait. Donc il faut une organisation parfaite, et là, on a probablement des problèmes encore à corriger. Mais disons, on va mesurer les protéines, soit dans le liquide céphalo-rachidien autour du cerveau, soit éventuellement, ça arrivera un jour, dans le plasma. Ou d'autres choses d'ailleurs que des protéines. On pourra mesurer du RNA, on pourra mesurer, enfin il y a différents éléments qu'on peut mesurer. Progrès biochimique. Et puis l'autre progrès, c'est le progrès de la visualisation de ce qui se passe dans le cerveau, puisque cette substance qui se dépose dans le cerveau, maintenant, peut être marquée avec des produits radioactifs à demi-vie relativement courte, ils sont marqués avec du fluor. Et il va falloir essayer de bien s'organiser. C'est une recherche qui a commencé en 1998, qui a abouti en 2004, qui se développe maintenant. Et pas chez tout le monde, mais il y a des indications de rechercher chez certaines personnes ces dépôts de protéines dans le cerveau grâce à des méthodes de marquage de la protéine d'une substance, un squalène qui se fixe sur la substance amyloïde. Le risque, c'est de faire ça pour rien. Donc il faut que ces méthodes de dosage que l'on met au point soient étroitement liées à la recherche thérapeutique. Et la caractéristique sur la maladie d'Alzheimer, d'ailleurs, comme sur toutes les maladies à l'époque moderne, c'est d'avoir à la fois couplé le diagnostic et le traitement. Et comme par hasard, dans les protéines que je viens de vous indiquer, la substance amyloïde comme la protéine tau, il y a des voies thérapeutiques qui vont avoir pour but soit d'empêcher le dépôt de la substance amyloïde, soit de la dissoudre, et d'empêcher les anomalies de survenue de la protéine tau. Mais ça ne suffit pas. Et là, c'est le point qui est très important. Je vous avais dit, il y a trois voies de recherche. Ceci n'est qu'une voie de recherche. C'est la plus prometteuse. Souvent, on pose comme question, mais quand est-ce qu'on va voir les résultats? Moi, bien évidemment, depuis que je suis sur la maladie d'Alzheimer et en mémoire toute l'hypertension artérielle depuis 1952, je suis arc-bouté derrière les résultats que les uns et les autres produisent avec énormément d'espoir. On va avoir des progrès de connaissance, je ne dis pas des progrès de traitement, mais des progrès de connaissance importants dans les 2 à 5 ans qui viennent. Et il faut bien savoir, quand je dis progrès de connaissance, ça veut dire que je ne sais pas si ça sera positif ou négatif. Et quand je dis « je », les gens ne le savent pas. Donc voilà la première, parmi les 3 voies de réflexion, voilà la première voie de réflexion, la substance amyloïde, la protéine tau, les médicaments agissant sur ces 2 voies.
Alors, un mot sur les banques.
Oui.
Vous soutenez vraiment dans le plan Alzheimer la constitution de banques qui vont servir en quelque sorte de base à des recherches sur la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire de comprendre le développement des lésions, le mécanisme de développement des lésions. C'est un axe très important pour vous.
C'est un axe très important pour moi qui, en France, n'a pas le support nécessaire. Puis le plan ne pouvait pas le donner. On vivait sur l'idée que grâce à la générosité des Français dans l'association France Alzheimer, comme cela se fait dans tous les pays, un appui important serait fait et existait sur les dons du cerveau. C'est aujourd'hui plus difficile parce que je crois qu'il faut aussi mettre de l'ordre dans cela. Il faut pas que les choses... C'est extrêmement lourd. C'est humainement lourd et c'est techniquement lourd. C'est humainement lourd parce qu'il faut expliquer aux gens et à la famille qu'on va prélever le cerveau dans un intervalle de temps de 8 heures après la mort. Donc c'est un volontariat, comme on fait les ordres religieux aux États-Unis. On est volontaire pour donner à la science son cerveau, ce qui n'est pas facile à imaginer.
Oui, bien sûr.
Puis l'organiser pour les prélèvements et après pour garder ce qui a été prélevé pendant des durées que nous ne maîtrisons pas. C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas combien de temps on aura besoin de certains cas très bien étudiés. C'est très lourd et je pense que le plan là-dessus n'a pas suffisamment d'impact, n'a pas suffisamment d'aide. Alors que parallèlement, grâce au travail qui avait été fait par le professeur Amouyel, on a fait des progrès majeurs dans la compréhension génétique d'une maladie qui met en jeu d'assez nombreux gènes. Mais je dirais que oui, les banques de cerveau, mais mieux faites au point de vue clinique, pas au point de vue anatomopathologique, mieux organisées sont indispensables, mieux organisées, et il n'y a pas actuellement le support financier nécessaire.
Alors, comme toujours dans ces cas-là, l'avancée, elle peut venir aussi des modèles animaux. Vous soutenez cette piste aussi?
Elle est totalement indispensable. Il faut totalement s'en méfier. Comme dans le cancer, il y a beaucoup de médicaments qui ont marché chez des souris. En particulier, on a des modèles qui expriment les protéines que je vous ai signalées, qui les surexpriment. Et on peut observer des succès chez l'animal qui ne vont pas être transmis chez l'homme. Mais ça, c'est une réflexion générale sur les modèles animaux en médecine. On ne peut pas se passer des modèles animaux et en même temps, il faut s'en méfier. Et l'intérêt du plan, qui est, je crois, pour moi, au point de vue scientifique, l'intérêt majeur, c'est d'obtenir qu'il n'y ait plus cette coupure entre les chercheurs fondamentaux enfermés sur leurs souris et les cliniciens enfermés sur leurs malades. Il faut absolument que les cliniciens connaissent les modèles expérimentaux, Il faut que les gens qui font du modèle expérimental sachent ce qu'est la maladie humaine. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la neuropathologie, on a un très bon exemple. Il faudrait avoir davantage de neuropathologistes qui soient les mêmes pour les lésions du cerveau de l'animal et les lésions du cerveau de l'homme. Et que la biologie cellulaire qu'on applique à l'animal soit aussi appliquée à l'homme.
Dernier point, et là on sent votre patte, c'est le rôle des facteurs, on va dire vasculaires, dans le développement ou la genèse des lésions de la maladie d'Alzheimer.
Alors c'est la deuxième explication très importante. Les lésions vasculaires qui existent dans les cerveaux chez chacun d'entre nous en fonction de l'âge vont s'additionner aux lésions biochimiques. Comme on ne sait pas pour le moment toucher la biochimie, notre idéal, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas de lésions vasculaires. Mais comme toujours dans le vasculaire, c'est pas d'intervenir quand est survenu un accident vasculaire cérébral ou une manifestation, c'est d'intervenir avant. Et essentiellement, c'est tout à fait facile à résumer, c'est pendant toute la vie d'abord. Il n'y a pas une limite d'âge à partir de laquelle il faut faire attention au vasculaire. Mais en particulier à partir de la cinquantaine, plus l'hypertension artérielle est bien traitée, plus le cholestérol est contrôlé, moins les gens fument, moins ils sont gros, plus ils font de sport, c'est parfait. C'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai pour le cancer. Et on rajoute sur la maladie d'Alzheimer quelque chose de très important, qui est spécifique à l'Alzheimer, qui est la gymnastique intellectuelle. Puisque le troisième versant de l'explication de la maladie, les protéines, les vaisseaux, le troisième versant, c'est la réserve cognitive et c'est la capacité de développer de nouveaux circuits par un entraînement intellectuel, au même titre qu'on développe des muscles.
Alors, un ou deux conseils là-dessus?
Le conseil, eh bien, c'est de mettre beaucoup d'argent dans l'école. C'est-à-dire de faire que les enfants, très très tôt, on s'occupe d'eux. On dépiste les petites anomalies qui les empêchent d'apprendre à lire bien, qui les empêchent de, qui les bloquent. C'est plus, oui, j'ai un seul conseil, plus d'attention à l'école.
Vous voulez dire qu'en stimulant l'enfant, oui, en lui donnant la possibilité de s'exprimer, de jouir pleinement de toutes ses facultés, quelque part, des années plus tard, on peut trouver le bénéfice de cet investissement à travers, je dirais, le développement intellectuel et, je dirais, le stock mnésique dont bénéficie toute cette population.
Alors j'ai un peu peur de ne pas être simplet devant les neurologues, mais pour l'os et l'ostéoporose, ouais, plus vous avez une masse osseuse à 30 ans, moins vous faites d'ostéoporose à 70 ouais ans. Pour le cerveau, plus vous avez fait travailler vos synapses, plus lentement vous diminuerez. Et donc, pour protéger les personnes âgées de la maladie d'Alzheimer, il faut investir sur les jeunes.
Enthousiasme sur un sujet très lourd. Voilà comment je pourrais qualifier votre intervention, Joël Ménard. Pour ceux que ce sujet intéresse, je les invite à se reporter très utilement à un livre que vous venez de publier chez Solal, Médecine de la mémoire, Mémoire de médecin, le plan Alzheimer 2008-2012. Merci à vous, Joël Ménard. Cette émission d'Olivier Lioncamp a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Jean-Christophe Francis, avec Bernard Laniel à la prise de son. Vous pouvez podcaster cette émission durant une semaine, la réécouter durant un mois sur le célèbre site internet de France Culture, www.franceculture.com. Et sans attendre, pensez à demain, 14h, Planète Terre de Sylvain Kahn, 14h30, le Salon Noir de Vincent Charpentier. À la semaine prochaine.